without falling off the ship.
Qu'il fallait un moment forcément tout repeupler. L'amour, les arbres, les gens.
RFI 9h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Roem.
Guillaume Ouattara pour le journal à la une. Il est urgent que ce blocus soit levé.
La déclaration il y a quelques minutes de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur RFI. Il réagissait à la mise en place hier après-midi d'un blocus des ports iraniens. Une onde de choc mondiale et une opportunité que Donald Trump tente déjà de transformer en levier économique. Vous l'entendrez. Sur le front diplomatique à Washington, un face-à-face inédit israélien et libanais renoue le dialogue après 30 ans de silence. avance, mais avec des attentes au plus bas et une guerre qui continue sur le terrain. Dans l'actualité également, en Algérie, le pape poursuit son voyage, cap sur Annaba, au cœur d'un continent où la concurrence religieuse s'intensifie et où l'influence du Vatican est en jeu. Ce sera le dossier du 9h. Et puis du foot, quart de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG en position de force à Liverpool.
Main du blocus des ports iraniens par Donald Trump, un détroit d'Hormuz presque hermétique.
On signale simplement un pétrolier chinois sous sanction américaine qui a traversé cette nuit le détroit d'Hormuz avec à son bord près de 250 000 barils de méthanol, mais on est bien loin du trafic d'avant la guerre dans cette zone minée. Un blocus américain qui s'ajoute à l'iranien et qui vise directement les exportations de pétrole de Téhéran. Une ligne rouge très claire côté américain. Tout navire iranien qui tenterait de forcer le blocus sera détruit. Téhéran parle d'une violation grave de sa souveraineté et menace de s'en prendre aux ports des pays voisins du Golfe, tandis que les gardiens de la Révolution évoquent des représailles possibles. Pourtant, les discussions ne sont pas totalement rompues. J.D. Vance assure que la balle est dans le camp iranien. Washington exige toujours des garanties sur le nucléaire quand Téhéran dit rester ouvert, mais uniquement dans le cadre du droit international. On part tout de suite à Téhéran retrouver Siavosh Ghazi, le correspondant de RFI dans le pays. Siavosh, comment réagit-on à ce blocus du côté des autorités iraniennes ?
L'Iran a dénoncé le blocus des ports iraniens par les États-Unis en affirmant que c'était une violation de sa souveraineté. Un porte-parole des gardiens de la Révolution a affirmé que si la guerre continuait, l'Iran allait révéler des capacités qui n'ont pas encore été montrées et utilisées et l'ennemi sera surpris et ne pourra pas y faire face. Une menace très claire. Le vice-président américain a de nouveau répété à la chaîne de télévision américaine Fox News que l'enrichissement zéro, la sortie du stock d'uranium du pays et l'ouverture totale du détroit d'Hormuz étaient exigés par les États-Unis, ce qui avait empêché un accord à Islamabad. Téhéran refuse ces conditions. Le président Pezeshkian, qui a appelé son homologue français Emmanuel Macron, a affirmé que les demandes excessives des États-Unis ont empêché l'accord à Islamabad. Nos conditions sont très claires et nous les avons exprimées par avance. Désormais, on est dans l'impasse, même si on parle d'une reprise des négociations au cours des prochains jours.
Merci Siavosh. Siavosh Ghazi depuis Téhéran pour RFI.
Nous ne devons pas laisser l'économie mondiale être prise en otage par ce conflit.
Ouais, déclaration il y a quelques minutes sur RFI de Jean-Noël Barrot, un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Des conséquences négatives donc sur l'économie mondiale avec un baril de pétrole qui se négocie désormais au-dessus des $100. Le prix des hydrocarbures explose à la pompe pour les consommateurs, mais ne serait-ce pas là une aubaine pour Donald Trump? Gwendal Lavina, le président américain, tente de capitaliser sur les effets du blocus. Et il invite même les pays touchés à venir se fournir en pétrole aux États-Unis.
À plusieurs reprises ces derniers jours, le président a affirmé que de très nombreux pétroliers vides se dirigent en ce moment vers les côtes américaines pour remplir leurs cales. Sur Fox News, Donald Trump s'est même adressé spécifiquement à la Chine pour inviter ses navires aux États-Unis, mais aussi au Venezuela, dont la production d'hydrocarbures est de facto contrôlée par Washington. Donald Trump présente le pétrole, l'essence et le gasoil américain comme une alternative durable à ce que produit habituellement le Moyen-Orient. Selon des projections du site spécialisé Kepler, les exportations de pétrole brut par les États-Unis vont atteindre 5 millions de barils par jour ce mois-ci, contre 4 millions de barils en moyenne par jour sur l'année 2025. Mais les spécialistes du secteur rappellent deux choses. La première est qu'avant la guerre, le détroit d'Hormuz voyait transiter 20 millions de barils de brut et d'autres produits pétroliers chaque jour. Impossible pour les États-Unis d'arriver à un tel niveau. Et c'est le second élément. Les majors américaines n'ont quasiment aucune marge de manœuvre dans la production ou l'exportation de davantage d'hydrocarbures. Les projets d'extension en cours de leurs infrastructures ne porteront leurs fruits que dans plusieurs années. Gwendal Lavina, New York, RFI.
Une crise géopolitique aux conséquences mondiales. Tiens, une autre illustration en Thaïlande où les célébrations de Songkran, le nouvel an, ont commencé hier et se poursuivent jusqu'à demain. Eh bien, il y a une saveur particulière liée à la flambée des prix du carburant dans les petites boutiques de Yaorat, le Chinatown de Bangkok. Les commerçants constatent au micro de notre correspondant Valentin Sebron une nette baisse de leurs revenus par rapport à l'an dernier.
Dans les ruelles animées de Yaowalat, les traditionnelles ventes de pistolets à eau à cette période de l'année sont en baisse, disent les commerçants, comme Bot derrière ses cartons remplis d'invendus.
Cette année, c'est très différent. Les ventes ont clairement ralenti, c'est beaucoup plus calme. Ça ne marche plus aussi bien qu'avant.
Dans une autre boutique, la gérante, Mae, s'inquiète du caractère imprévisible du président américain.
On a le sentiment que tout peut arriver. Franchement, avec Trump, tout est possible. À cause de de la guerre, les gens préfèrent économiser. Ils évitent de dépenser, ils se limitent au strict nécessaire. Du coup, certaines familles ne participeront même pas aux batailles d'eau. En ce moment, tout le monde se serre la ceinture.
Cette année, de nombreux Thaïlandais privilégient des célébrations locales près de chez eux plutôt que de voyager d'une province à l'autre. À cela s'ajoutent d'autres perturbations du secteur touristique. D'après le Bangkok Post, le nombre de visiteurs dans le royaume a chuté d'environ 30% au cours du premier mois suivant le début du conflit au Moyen-Orient. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
À Pékin, le président Xi Jinping appelle au respect strict de la souveraineté des États du Moyen-Orient et du Golfe. Il met en garde contre une application à géométrie variable du droit international, dénonçant un monde qui ne peut pas, selon lui, retourner à la loi de la jungle. Fin de citation, message clairement adressé aux Américains. Et il y a aujourd'hui un face-à-face inédit. Israéliens et Libanais se retrouvent à Washington pour des discussions directes, les premières depuis plus de 30 ans, sous médiation américaine, mais avec des attentes très faibles. Car sur le terrain, la guerre continue. C'est l'autre conflit. Plus de 2000 morts au Liban depuis début mars. Un nouveau soldat israélien tué ces dernières heures et des lignes rouges toujours infranchissables. Israël exige le désarmement du Hezbollah, quand Beyrouth espère avant tout un cessez-le-feu. Et dans ce contexte difficile d'imaginer une percée rapide, même les diplomates américains parlent d'un processus long, fragile et incertain. Pendant ce temps, à Gaza, un timide signal. Israël a rouvert pour la première fois depuis plus de 40 jours un point de passage vers le nord de l'enclave, le poste de Zikim. Une décision qui doit permettre d'augmenter l'acheminement de l'aide humanitaire dans un territoire ravagé par des mois de guerre et des besoins toujours immenses. Écoutez le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric.
Les fournitures y ont déjà été déchargées ce week-end et la collecte des marchandises de l'ONU à l'intérieur de Gaza a repris ce lundi. Cette opération a débuté avec des denrées alimentaires, des produits nutritionnels et d'autres articles humanitaires gérés par le Programme alimentaire mondial ainsi que par l'UNICEF. Cela permettra de répondre à un besoin urgent en faisant entrer les fournitures directement dans le nord de Gaza, ce qui nous évitera de devoir les acheminer par camion depuis le sud. Mais d'importantes contraintes subsistent. Parmi celles-ci figurent les exigences israéliennes en matière de dédouanement, qui est souvent retardée, l'insuffisance des capacités de scan, qui rend difficile l'obtention d'autorisation pour des articles essentiels, ainsi que les interdictions générales visant certaines agences des Nations Unies et certaines ONG partenaires qui jouent un rôle central et crucial dans notre action humanitaire conjointe à Gaza.
Voilà donc pour le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, au micro RFI de Guilhem Delteil.
À la une également, Guillaume, du football, début des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions.
Avec un nouveau duel entre Liverpool et le PSG, 6 jours après la victoire 2-0 des Parisiens, le tenant du titre largement dominateur au match aller, plus que jamais favori pour se qualifier pour le dernier carré. Mais à Liverpool, on croit très fort à l'exploit, Cédric De Oliveira est notre envoyé spécial sur place.
Pour Craig, c'est comme si le match de mercredi n'avait pas existé. Liverpool a franchement été décevant au Parc des Princes, mais ce supporter des Reds est persuadé qu'à Anfield, dans leur stade, tout va changer.
C'est toujours un énorme avantage de jouer à Anfield. Tout peut arriver. Je me souviens d'un match incroyable ici contre Barcelone. C'était il y a 5 ou 6 ans.
C'était en 2019. À l'époque, Liverpool avait perdu 3-0 à l'aller avant de l'emporter 4-0 face au Barça de Messi. Et ici, tout le monde rêve d'un scénario similaire, à l'image de l'entraîneur Arne Slot.
On a montré tellement de fois de quoi on était capable, de sortir un grand match. Depuis que je suis ici, en près de 50 matchs à Anfield, à 36 reprises, on a marqué plus de 2 buts. Mais il faudra faire quelque chose d'exceptionnel contre les champions d'Europe. Ce sera difficile, mais pas impossible.
Le problème, c'est que Liverpool n'affronte pas le PSG tous les week-ends et que le tenant du titre ne sera pas surpris par l'accueil des Anglais. Son entraîneur Luis Enrique se montre vigilant.
Pour moi, c'est un match piège. Tout le monde parle qu'on a été très supérieur et peut-être c'est vrai, mais tu peux concéder un but dans les premiers mi-temps et le match est encore ouvert.
C'est l'objectif de Liverpool, marquer très vite, mettre le doute dans la tête des Parisiens, prendre sa revanche sur l'an dernier et se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2022. Cédric De Oliveira.
wanna talk so much no more. Always painting a picture twice to be sure. How that mental chatter backfires on me. Like, put a cap on it, stuff a sock in your mouth, baby. Put a cap on it, stuff a sock in your mouth, baby. Articulates because the violence I see articulates. Mental chatter backfires.
Say goodbye, my friend, 'cause you leave town in time to follow your way. It's a sweet, sweet song. It's a sweet. Thank you.
l'écoute de
Principe Actif, le mix des cultures.
Ah tiens Bill, on va passer un super disque. Alors tu mets le disque. Mets le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout.
La dynamite, l'ami, pour avoir son quart d'heure de gloire, comme on dit, la dynamite. émission sponsorisée par Nokia. La souffrance d'un état dans le regard d'un état. Pardonnez-moi si je ne m'attarde pas, mais je préfère l'hélicoptère face au Kamasutra. Et mes sous-traques, Britney, la boule à Z, l'or, le boule à l'air, à l'aise comme Paris. T'as vu la scène? J'ai la pupille carrée, les yeux injectés de sang. À force de fixer l'écran dans l'écran, je rentre dans les rangs. Lentement, sans élan, égarant mon temps dans l'errance. Plan sur plan, truqué comme portable et popcorn. Yankee comme portable et hot dog. Ray-Ban et top modèle en pleine crise, chaussée des skis. Pop cable comme brûlé des desks, peu d'esprit. Juste une esprit de la vie, une pâle copie. Une industrie